Chapitre 12e. Michel et Florence, occupés l'un de l'autre, quoique séparés par la largeur de la chaussée, ne prêtèrent aucune attention à ce fiacre qui cheminait lentement dans une direction semblable à la leur, rien n'étant plus commun que de voir, à cette heure matinale, des fiacres regagner au pas leur domicile. Au moment où les deux voisins, toujours suivis à leur insu, entraient dans la rue de Tournon, l'angle de cette rue était obstrué par un embarras de ces charrettes de maraîchers qui, entrant par toutes les barrières, se rendent de grand matin à la halle. La femme tapie dans le fiacre, le voyant s'arrêter devant cet encombrement, craignit de perdre de vue la personne qu'elle suivait, et dit au cocher de lui ouvrir la portière, le paya, descendit, et hâtant le pas, se remit sur les traces de Michel. Mais en arrivant vers le milieu de la rue de Tournon, elle remarqua pour la première fois l'homme au manteau qui marchait à peu près de front avec elle. D'abord, elle ne s'inquiéta pas de cet incident. Cependant, ayant à la lueur d'une lanterne vu qu'une femme précédait cet homme de quelques pas et que cette femme cheminait parallèlement à Michel Renaud, elle commença de trouver ceci fort singulier. Dès lors, son attention se partagea malgré elle entre Michel, Madame de Luceval et l'homme qui marchait à quelque distance de celle-ci. Michel et Florence, bien encoqueluchonnés pour se garantir du froid, celle-ci dans son chapeau et dans son manteau, celui-là dans son paletot et dans un large cache-nez de laine qui lui montait presque jusqu'aux yeux, ne s'apercevaient pas encore de ce qui se tramait derrière eux, tâchaient d'échanger un regard lorsqu'ils passaient sous la lueur d'un bec de gaz et se dirigeaient allègrement vers le carrefour auquel aboutit la rue Dauphine. L'homme au manteau, tout encapé, comme disent les Espagnols, dans les larges plis de son vêtement, et profondément absorbé, remarqua tardivement qu'une femme suivait un homme sur le trottoir opposé à celui où lui-même suivait Florence. Il y avait à cette heure trop peu de passants pour qu'après quelques minutes d'attention, il pût se méprendre sur la manœuvre de la femme à la pelisse. Mais combien il fut surpris lorsque, l'ayant entrevue à la clarté d'un magasin de liquoristes matinalement ouvert, il crut reconnaître à sa taille élevée, à sa démarche légère et à son chapeau de deuil, la femme que la veille il avait reconduite en fiacre rue de Rivoli, car l'on a sans doute déjà nommé les deux voyageurs du Chili. Cette nouvelle rencontre, cette coïncidence dans leur double poursuite, après leur entrevue du jour précédent, était trop extraordinaire pour ne pas donner à l'homme au manteau le désir d'éclaircir à l'instant ses soupçons. Aussi, sans quitter pour ainsi dire Florence du regard, il traversa rapidement la rue et s'approchant de la femme à la pelisse. « Madame, un mot de grâce !»« Vous, monsieur ? » s'écria-t-elle. « C'était donc vous ?» Et tous deux restèrent un instant stupéfaits. L'homme, prenant la parole le premier, s'écria. « Madame, d'après ce qui se passe, et dans notre intérêt commun, il faut que nous ayons à l'instant une explication sincère. »«
Je le crois, monsieur. »«
Eh bien, madame, je... » « Rangez-vous, prenez garde à cette charrette !» s'écria la femme à la pelisse, en interrompant son interlocuteur et lui montrant une voiture de laitière qui s'avançait au grand trot, effleurant le trottoir en dehors duquel l'homme au manteau était resté. Celui-ci se gara prestement, mais pendant ce temps, Florence et Michel, arrivés au carrefour, venaient de disparaître grâce à l'avance qu'ils avaient prise durant les quelques mots échangés entre les deux poursuivants. La femme à la pelisse, s'apercevant la première de la disparition de Michel, s'écria avec un accent de dépit douloureux « Je ne le vois plus, je l'ai perdu !» Ces mots rappelèrent à l'autre personnage que sa poursuite devait être aussi déçue. En effet, il se retourna vivement et ne vit plus Florence. « Madame, s'écria-t-il, marchons vite jusqu'au carrefour, peut-être est-il encore temps de les rejoindre. Venez, prenez mon bras. »«
Courons, monsieur, courons !» dit la jeune femme, en s'attachant au bras de son compagnon, et tous deux s'élancèrent vers le carrefour.
Arrivés à cette place où aboutissent 4 ou 5 rues étroites et sombres, ils ne trouvèrent personne et reconnurent combien il serait vain de pousser plus loin leurs recherches. Après s'être un instant reposés de la précipitation de leur course, nos deux personnages gardèrent un moment le silence, songeant pour ainsi dire à loisir au rapprochement singulier de leur destinée. Puis l'homme au manteau s'écria « En vérité, madame, c'est à se demander si l'on rêve ou si l'on veille. Il n'est que trop vrai, monsieur. Je ne puis croire à ce que je vois, à ce qui se passe.
Je vous le répète, madame, il y a dans ce qui nous arrive depuis hier quelque chose de tellement inexplicable que notre réserve mutuelle ne saurait durer plus longtemps.
Je le pense comme vous, monsieur.
Veuillez me donner votre bras, je suis glacé. L'émotion, la surprise, je ne me sens pas bien, mais en marchant, cela se dissipera.
Où irons-nous, madame ?
Peu m'importe, monsieur. Gagnons le pont neuf, les quais.
Et tous deux, descendant la rue Dauphine, eurent en marchant l'entretien suivant.
Je dois d'abord, monsieur, reprit la jeune femme, vous faire connaître mon nom.
Cela est de peu d'intérêt sans doute, mais enfin, il faut que je vous apprenne qui je suis.
Je m'appelle Valentine d'Infreville, je suis veuve.
Grand Dieu !
S'écria le momentot en s'arrêtant pétrifié.
Vous ? Que voulez-vous dire ?
Vous, madame d'Infreville ?
Pourquoi cet étonnement, monsieur ?
Mon nom ne vous est donc pas étranger ?
Après tout, reprit le momentot en sortant de l'espèce d'étourdissement où le jetait cette révélation,
il n'est pas étonnant que je ne vous ai point reconnu, madame, ni au Chili, ni ici, car la première fois que je vous ai vue, il y a 4 ans de cela, je n'ai pu distinguer vos traits que vous cachiez dans vos deux mains, mais l'indignation que je ressentais.
Que dites-vous, monsieur ?
Il y a 4 ans, vous m'aviez déjà vu avant notre rencontre au Chili ?
Oui, madame.
Et où cela ? En vérité, maintenant, je n'ose vous rappeler.
Encore une fois, chez qui m'avez-vous vu, monsieur ?
Chez ma femme.
Votre femme ?
Chez madame de Luceval.
Comment ? Vous êtes ?
Monsieur de Luceval. Valentine d'Infreville, à son tour, resta pétrifiée de cette rencontre qui éveillait en elle de cruels souvenirs. Aussi reprit-elle avec accablement.
Vous dites vrai, monsieur.
La première et seule fois que nous nous sommes rencontrés chez madame de Luceval, il a dû vous être aussi impossible de distinguer mes traits qu'à moi de distinguer les vôtres. Je me cachais le visage, écrasé de honte. Et maintenant encore, ajouta Valentine en baissant la tête comme pour se soustraire au regard de monsieur de Luceval, bien que des années se soient passées depuis cette funeste soirée, je remercie bien qu'il fasse nuit.
Croyez-le, madame, c'est à regret que je vous ai rappelé de si pénibles souvenirs, bien pénibles aussi pour moi, car, entraîné par l'animosité de monsieur d'Infreville qui vous accablait, j'ai...
Mais Valentine l'interrompit et lui dit avec un mélange de curiosité, d'inquiétude et de tendre intérêt,
« Et Florence ?»«
C'est elle que je suivais tout à l'heure, » répondit monsieur de Luceval d'un air sombre.
« Elle ? Comment ? Cette femme, c'était... »
« C'était madame de Luceval.
Mais pourquoi la suivre ?
Vous ignorez donc ?
Parlez, monsieur, parlez.
Nous sommes séparés, séparés de corps et de biens, » répondit monsieur de Luceval en étouffant un soupir douloureux.
« Il l'a fallu. »
« Et Florence, où demeure-t-elle ?
Rue de Vaugirard. »«
Ah, mon Dieu ! » dit Valentine en tressaillant.
« Cela est étrange. »
« Qu'avez-vous, madame ?
Florence demeure rue de Vaugirard ? À quel numéro ?
Au numéro 59.
Et Michel demeure au numéro 57 ?
S'écria Valentine.
Michel ?
S'écria à son tour monsieur de Luceval.
Michel Renaud ?
Oui, votre cousin. Il demeure au 4e numéro 57. Hier, lorsque je vous ai rencontré, je venais de m'en assurer.
Et ma femme demeure au même étage que lui ?
Dit monsieur de Luceval. Puis il ajouta, en sentant le bras de Valentine trembler convulsivement et s'appuyer pesamment sur le sien.
« Mon Dieu, madame, qu'avez-vous ? Vous faiblissez ? »
« Pardon, monsieur, le saisissement, le froid, je ne sais ce que j'éprouve, mais je puis à peine me soutenir et, je le sens, la tête me tourne. »«
Madame, un peu de courage, encore un effort, seulement jusqu'à cette boutique éclairée, là, au coin du quai. »«
Je vais tâcher, monsieur, de me soutenir jusque-là. » répondit Valentine d'une voix altérée. Elle eut en effet la force de se traîner jusqu'à une boutique d'épicier déjà ouverte. Une femme se trouvait au comptoir. Elle s'empressa d'accueillir madame d'Infreville, la fit entrer dans l'arrière-boutique où elle lui prodigua tous les soins possibles. Au bout d'une heure, et il faisait alors grand jour, une voiture ayant été mandée à la porte de la boutique, monsieur de Luceval reconduisit chez elle madame d'Infreville.